vous invite à une lecture dans le livre de Jérémie, au chapitre 29. Jérémie, chapitre 29, nous lirons les versets 1 à 7. Jérémie, chapitre 29, les 7 premiers versets. Voici le contenu de la lettre que Jérémie, le prophète, envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait emmené captif de Jérusalem à Babylone. Après que le roi Jéconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers, les serruriers, furent sortis de Jérusalem, il a remis à Elasa, fils de Shaphan, et à Gemaria, fils de Hilkija, envoyés à Babylone par Sédécias, roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. La lettre était conçu ainsi. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins, mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes, ne diminuez jamais. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité, et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Nous prions ensemble. Seigneur, ta parole est la vérité. Guide-nous dans cette vérité maintenant. Amen. Le texte de Jérémie que nous venons de lire se situe en 597 avant Jésus-Christ. À cette époque, les pays du Moyen-Orient vivaient tiraillés dans la rivalité entre l'Égypte, qui était à l'époque une très grande puissance, et le royaume de Babylone, qui en était une autre. C'est à celui des deux qui étendra le plus son empire colonial au détriment de l'autre. Et tous les petits peuples dans la région côtière de la Méditerranée sont comme pris en étau entre ces deux mâchoires de fer et doivent choisir de quel côté ils décident de se ranger, soit avec l'Égypte, soit avec Babylone. Toute proportion gardée, c'est un peu la même situation que nous avons connue au XXe siècle, au temps de ce que l'on a appelé la guerre froide, dans la rivalité entre l'Empire américain et l'Empire soviétique. le petit roi qui règne sur Jérusalem, qui règne sur tout le territoire de Judée, à cette époque s'appelle Joachim. Il aimerait bien, lui, s'affranchir de la tutelle babylonienne, d'autant plus que le pharaon d'Égypte à cette époque lui fait les yeux doux et qui lui fait croire surtout qu'il aura beaucoup plus de pouvoir s'il choisit l'Égypte, qu'il aura beaucoup plus d'autonomie si il s'allie avec l'Égypte. Inutile de dire que ce genre d'infidélité déplaît au roi de Babylone, le fameux Nebuchadnezzar ou Nabucodonosor, c'est le même. En 597, il vient assiéger la ville de Jérusalem, il bat à plat de couture Joachim, il le fait prisonnier et il l'emmène captif à Babylone. Lui, avec toute la cour, les princes de Juda, les prêtres du temple et même les forgerons. Il faut à tout prix empêcher ce peuple rebelle de se réarmer et de montrer à nouveau des velléités d'émancipation. Et cet exil qui est forcé à Babylone pour environ en gros 13 000 habitants de Jérusalem et de sa région claque comme une terrible gifle pour le peuple des Judéens. Difficile d'accepter que le Dieu des ancêtres, le Dieu d'Abraham et de Jacob, n'ait pas assuré la protection de son peuple devant l'ennemi. Et à la crise politique s'ajoute aussi une crise spirituelle et religieuse. C'est qu'avant, les choses étaient simples. Il y avait un peuple élu, le peuple des descendants d'Israël. Il y avait un Dieu qui était connu, c'était le Dieu d'Israël. Il y avait un lieu précis, le temple de Jérusalem, où on pouvait le rencontrer. Et il y avait une règle qui était très simple. Le peuple d'Israël sert fidèlement le Dieu d'Israël et le Dieu d'Israël protège son peuple contre ses ennemis. Avec la prise de Jérusalem, l'exil du roi et des prêtres, toute cette construction s'écroule. Le monde apparaît tout à coup beaucoup plus complexe que ce que l'on avait imaginé. On a coutume de dire aujourd'hui que depuis les attentats du 11 septembre contre les États-Unis, le monde n'est plus comme avant. La chute de Jérusalem en 597 avant notre ère, c'est un événement de même nature. Il met fin à un certain ordre du monde que l'on croyait établi pour toujours. Et dans ce genre de situation où le monde change brusquement, tout le monde n'a pas la même clairvoyance pour comprendre où va le monde. Quelles sont les nouvelles règles du jeu? L'attitude la plus répandue, autant parmi la population de Jérusalem que parmi les exilés de Babylone, consiste à l'époque à minimiser l'événement. Du style, nous avons perdu une bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre. Et de fourbir les armes, d'organiser une révolte et de préparer la revanche. À Babylone se lèvent même des prophètes, soi-disant inspirés par Dieu, pour dire aux exilés « Dieu est avec nous, nous sommes son peuple, Dieu ne nous a pas abandonnés. Préparons-nous à la guerre et nous allons gagner. » Et c'est ainsi qu'un réseau de résistance contre l'occupant babylonien s'organise. On imagine volontiers que le temps de refaire ses forces, le peuple de Juda va se libérer de cette tutelle. Tout cela est inutile. C'est la voix de Jérémie qui parle. Jérémie qui est prophète et qui est l'envoyé de Dieu. Tout ce que vous faites est inutile. Jérémie est le seul, l'unique, à oser une parole qui va à contre-courant du discours officiel. Jérémie n'a eu de cesse, depuis plusieurs années maintenant, d'annoncer cette catastrophe. Jérémie est très lucide sur les motivations des chefs de Juda. Il a dénoncé leur fausse assurance. Il leur a dit: ne vous imaginez pas que parce que vous avez le temple de Jérusalem, vous êtes une nation invincible. Ne vous imaginez surtout pas qu'une religion de façade comme la vôtre soit suffisante. Vous devez revenir à Dieu de tout votre cœur. Vous devez le laisser transformer votre mentalité. Vous devez faire avec lui une nouvelle alliance. Vous devez vivre avec lui dans l'humilité. Et ce, c'est le seul moyen d'échapper au désastre. Ne cherchez pas à vous révolter contre Babylone. Vous n'y gagnerez rien. Et Jérémie se fait traiter de tous les noms. Il se fait traiter par ses contemporains de faux prophètes, de traîtres à la cause nationale. Et surtout, il se fait traiter de sale collabo. Après l'exil de Joachim à Babylone, alors que tout le monde prépare la revanche, rêve de vengeance, brûle d'en découdre à nouveau avec l'ennemi babylonien, Jérémie prend sa plume, prend une feuille et écrit une lettre au roi. Il écrit une lettre aux responsables d'Israël. Dans le contexte belliqueux que nous avons décrit, on ne peut faire plus provocant. Jérémie leur dit: installez-vous à Babylone. Construisez des maisons, plantez des jardins, mariez vos fils, mariez vos filles, multipliez-vous, travaillez pour que Babylone prospère. Et surtout, priez pour Babylone. Aux Judéens qui rêvent de revanche contre Babylone, aux Judéens qui rêvent d'un retour dans leur propre patrie, Jérémie annonce que l'exil va durer longtemps, très longtemps. On pourrait croire à première vue qu'il tient là un discours défaitiste, un discours qui est propre à anéantir le moral des troupes. Faut-il, c'est une question, faut-il toujours dire à celui qui souffre ce qu'il a envie d'entendre? Ou faut-il lui dire la gravité de son mal? En qualité de prophète, Jérémie a toujours parlé avec franchise avec son peuple. Il a toujours été clair, même si cela suscite de la haine contre lui. Il écrit une lettre aux Judéens pour leur annoncer que Dieu n'est pas parti en vacances. Cet événement dramatique était non seulement prévu, mais cet événement était voulu par Dieu. Dieu avait épuisé tous les autres moyens pour ramener son peuple à une foi sincère, pour ramener le roi d'Israël à respecter enfin le droit, à protéger les plus faibles dans la société. Seulement, personne n'a voulu écouter le prophète. Lorsque Jérémie appelait à changer de comportement, tout le monde s'est moqué de lui. Personne ne l'a écouté. Alors Dieu a dû employer les grands moyens. Il a dû laisser Joachim et toute sa bande aller au bout de leur orgueil et en payer les conséquences. L'exil à Babylone, ce n'est donc pas un accident, mais c'est une leçon que Dieu veut donner à son peuple. Jusqu'ici, le peuple de Juda s'imaginait que Dieu les protégerait de toutes circonstances, qu'il ne pouvait pas en être autrement. Ils étaient le peuple élu, le peuple bien-aimé de Dieu, et personne ne pourrait les vaincre. Chers amis, frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose. C'est très dangereux de se croire le peuple élu de Dieu. C'est très dangereux. Parce que ça donne le droit de posséder des terres, le droit de spolier les étrangers, le droit de spolier tous ceux et toutes celles qui n'ont pas la même religion, et tout ça en se réclamant d'une légitimité venue de Dieu. Eh bien, Dieu est clair. Dieu dit « Non, je ne marche pas dans vos combines. Je ne marche pas dans cette basse récupération de mon nom. » Et à travers l'échec cuisant d'un roi captif à Babylone avec toute sa cour, Dieu montre qu'il en a vraiment plus qu'assez qu'on utilise son nom pour justifier toutes ces injustices, pour justifier tous ces abus de pouvoir, pour justifier tous ces crimes, pour justifier toutes ces guerres. Et ne pensez surtout pas que la question ne nous concerne pas. Parce que la question nous concerne, nous aussi. Est-ce que nous nous servons de Dieu lorsque nous en avons besoin ? Est-ce que nous manipulons Dieu pour prendre ce dont nous avons besoin? Est-ce que nous nous servons de Dieu pour faire passer ce que nous voulons faire entendre aux autres? J'avais un paroissien qui disait souvent, dans une église où je fus pasteur, « Tu sais, Jean-Claude, Dieu m'a dit de te dire. jusqu'au jour où je lui ai dit, bien écoute, puisque tu es si bien branché avec Dieu, dis-lui qu'il vienne me parler lui-même. J'ai pas besoin de facteur. C'est très facile de dire, Dieu m'a dit de te dire. Moi, je peux vous dire ce matin que Dieu m'a dit de vous dire que vous deviez m'inviter au restaurant à midi. Il ne vous reste plus qu'une chose à faire, mes amis. Sortir votre portefeuille et m'inviter. Parce que si vous ne m'invitez pas, vous désobéissez à Dieu. C'est facile de dire, Dieu m'a dit de te dire. Est-ce qu'il ne nous arrive pas de temps en temps, honnêtement, de manipuler Dieu? Mais la lettre de Jérémie, c'est beaucoup plus qu'une leçon. Écoutez Jérémie dire au peuple, mariez-vous, ayez des fils, des filles, mariez vos fils, mariez vos filles, qu'à leur tour ils aient des enfants. Devenez aussi nombreux que possible. Et surtout, ne diminuez jamais. Alors, c'est des paroles qui ressemblent très, très étrangement au début du livre de la Genèse, où Dieu dit à Adam et Ève, croissez, multipliez, remplissez la terre. Vous connaissez ce texte, hein ? Ayez des enfants, peuplez la terre et dominez-la. Et Jérémie ose présenter l'exil à Babylone comme une nouvelle création. Un nouveau départ pour le peuple de Dieu. Comme s'il avait fallu vivre une mort, faire le deuil de ses illusions de pouvoir, pour pouvoir renaître à la vie, pour pouvoir renaître à l'espoir, dans une humilité nouvelle. Il est possible de renaître après la violence. Et du coup, Jérémie est en train de nous interroger, nous aussi, ce matin. Sommes-nous prêts? Es-tu prêt à lire les épreuves de ta vie comme autant de chances d'un nouveau départ? Des nouveaux départs que Dieu te donne. C'est pas facile à accepter parce que notre premier réflexe de fierté, c'est de dire « Je vais m'en sortir tout seul. Je suis assez fort pour ça. » Moi, c'est très simple. J'ai besoin de personne. Je vais m'en sortir tout seul. Je suis assez fort pour surmonter mes épreuves. La parole de Dieu nous invite à rentrer en nous-mêmes, à nous examiner nous-mêmes. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire avec cette épreuve que tu me donnes? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner au travers de cette épreuve? Ça, c'est la bonne réaction. C'est pas de dire, mais t'es où, Seigneur? Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu permets? La bonne réaction, c'est de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Qu'est-ce que je dois apprendre sur moi-même que j'avais oublié jusqu'ici? À quoi dois-je renoncer pour vivre un nouveau départ, une nouvelle naissance? Cherchez à rendre prospère la ville où le Seigneur vous a déporté. Priez pour elle. Car plus la ville où vous êtes déporté sera prospère, plus vous le serez vous-même. Comment exprimer plus clairement aux Judéens qu'ils n'ont pas à faire de leur camp de réfugiés un foyer de terrorisme? Qu'ils ne gagneront rien à préparer une hypothétique revanche contre les Babyloniens? que si leur vie est polarisée sur cette idée de vengeance, leur vie sera stérile. Combien de chrétiens aujourd'hui vivent une vie stérile ? Parce que leur cœur est rempli de vengeance. Je serai dans la tranquillité et dans la paix que le jour où je me serai vengé. Stérile sur le plan humain, car le renouvellement des générations ne sera pas assuré. Stérile sur le plan financier, car aucune économie de prospérité ne pourra se développer. Stérile sur le plan spirituel, car une telle attitude est contraire à la volonté de Dieu. Et maintenant, je vous pose une question très simple. Combien de personnes à travers le monde n'habitent pas la terre où ils sont nés ? Exilés pour des raisons économiques, réfugiés pour des raisons politiques. Nous savons les difficultés que pose parfois l'intégration de ces nouveaux venus dans la population autochtone. Et dans une telle tension ethnique, les paroles du prophète Jérémie résonnent comme un véritable projet social. Plus le pays où vous êtes accueilli sera prospère, plus vous le serez vous-même. Travaillez pour la prospérité du pays dans lequel Dieu vous a placé. Aimez le pays où Dieu vous a placé. Servez-le, honorez-le, respectez-le. Certains croyants se considèrent comme des exilés dans ce monde. La violence quotidienne, les compromis permanents, le mal, la maladie les poussent à espérer à un autre monde. Cet autre monde où Dieu régnera, où il n'y aura plus de guerre, où il n'y aura plus de maladie. Et ils considèrent que leur véritable patrie, ce n'est pas celle-ci, c'est celle qui est au ciel. Et j'en ai rencontré de telles personnes qui vous disent « Mais je m'en fous de la politique. Je ne vote jamais, moi. Ma patrie, à moi, elle est au ciel. » Eh bien, je dis non, mes amis. Ce n'est pas le discours que Dieu donne à Jérémie. Travaille pour la prospérité du pays. Aime le pays où Dieu t'a placé. Nous n'avons pas le droit de nous désolidariser, c'est dur à dire, du reste des humains. Nous sommes tous dans le même bateau. Et de leur prospérité dépendra votre prospérité. C'est le discours de Jérémie. De leur paix dépendra votre paix. Alors priez, agissez pour la paix du monde dans lequel Dieu vous a placé. La violence, c'est une voie sans issue. Notre bonheur passe obligatoirement par le bonheur de nos ennemis. C'est un message révolutionnaire, ça. Révolutionnaire. Je répète, notre bonheur passe obligatoirement par le bonheur de nos ennemis. Telle est la lettre de Jérémie à Babylone. Elle est écrite en 597 avant Jésus-Christ. Et elle n'a rien perdu de son mordant. Il ne nous reste plus maintenant qu'à dire Amen. Et à aller de l'avant. Nous prions au Seigneur. Seigneur, répands ta lumière, nous t'en prions. Répands ta lumière sur tous ceux qui, dans la nuit du doute, dans la nuit du découragement, te cherche, sans pouvoir te nommer. Toi, le prince de la paix, suscite entre les hommes le désir d'instaurer une paix juste, une paix durable. Et surtout, Seigneur, une paix où la justice dominera. Parce que nous croyons bien que sans justice, il ne peut pas y avoir de paix. Tu es l'espérance de tous ceux qui souffrent. Et nous confions à ton amour les malades, les prisonniers, ceux qui sont dans le deuil. Bénis-les, Seigneur. Répands ta grâce, nous t'en prions. Au nom de Jésus-Christ.